Bonjour, Jean-Claude Issali, bénévole LEPO. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Donc, l'émission à tire d'aile, l'émission de la LEPO Occitanie, délégation territoriale Aveyron. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des oiseaux qui sont tout proches de chez nous, mais qu'on connaît peut-être pas parfaitement. Voilà, ce sont les colombidés ou columbidés, selon les écritures. Voilà, donc ce sont les pigeons et les tourterelles. Donc des oiseaux qui forment une très grande famille, puisqu'on compte 49 genres et près de 350 espèces, donc présents sur tous les continents, sauf sur l'Antarctique. Alors, quelques caractéristiques générales pour commencer. Donc, les colombidés sont des oiseaux de taille petite à moyenne, avec des têtes plutôt petites, des pattes et des becs courts. Leur plumage peut varier considérablement, allant de couleurs vives à des teintes plus discrètes. Et souvent, ils présentent des reflets métalliques. Donc, ils se rencontrent dans presque tous les habitats terrestres, des forêts denses au désert, et sont particulièrement présents dans les régions tropicales et subtropicales, donc les régions relativement chaudes. Leur alimentation, ils sont principalement granivores, frugivores, donc ça veut dire qu'ils se nourrissent de graines, de fruits, parfois de feuilles. Ils sont généralement monogames, c'est-à-dire que mâles et femelles restent ensemble toute leur vie, normalement. Ils construisent des nids simples à partir de brindilles, des fois des nids vraiment transparents. On peut voir les œufs, des fois de par-dessous le nid. La ponte est normalement de 2 œufs. Bon, il y a quelques espèces qui n'en pondent qu'un, mais chez nous, tous les colombidés pondent 2 œufs. Qui sont couvés par les 2 adultes. Et une particularité de ces colombidés, c'est que les jeunes sont nourris avec une sécrétion appelée le lait de pigeon, qui provient du jabot des parents. Alors, c'est une famille qui est souvent associée à une autre famille, les pteroclidés. En fait, ce sont les gangas. Bon, les gangas, on en a très peu, hein, juste une espèce qui vient un petit peu sur la Camargue et les zones sèches aux alentours. Donc, ce sont des oiseaux qui, globalement, ne présentent pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que mâles et femelles sont pareils, bon, bien que les mâles soient un petit peu plus forts que les femelles. Un plumage doux, très duveteux au contact de la peau. Une petite tête souvent agitée de mouvements lorsqu'ils sont attentifs. Un bec court, plutôt fin et muni de cire à la base. Les ailes sont arrondies à l'extrémité. Ils ont un battement d'ailes très rapide, très énergique. Et ils ont des pattes anisodactyles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers l'avant et le pouce est dirigé vers l'arrière. Voilà. Et puis, ils ont des tarses très courts, c'est-à-dire des pattes très courtes. Ce n'est pas des échassiers. La famille des colombidés, elle est diversifiée. Elle joue un rôle important dans les écosystèmes en tant que dispersateur, si on peut le dire, dispersateur de graines. Donc, ça concourt à ressemer un peu partout. Ils sont adaptés à divers environnements, y compris les zones urbaines. Donc, ils ont une bonne résilience. Voilà. Donc, on les retrouvera assez facilement près des habitations. Alors, au niveau conservation, de nombreuses autres espèces, en particulier insulaires, celles qui vivent dans les îles, sont en danger en raison de la perte d'habitat, de l'introduction de prédateurs et de la chasse. Les cas d'extinction les plus connus sont le pigeon migrateur américain et le dodo de l'île Maurice, qui était un gros pigeon inapte au vol, éteint au XVIIe siècle. Mais je reviens un peu sur le pigeon migrateur américain, qui était une espèce extrêmement abondante en Amérique du Nord. C'était peut-être l'oiseau le plus abondant au monde. Sa population était estimée entre 3 et 5 milliards d'individus. Et ce pigeon effectuait en moyenne 2 migrations par an, en se déplaçant avec des groupes extrêmement massifs, qui pouvait obscurcir le ciel pendant des heures. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Un ornithologue américain a décrit une migration où le nombre de pigeons était si élevé que la lumière du soleil était complètement anéantie. Donc c'était des vols immenses. Il y a plein de témoignages, puisqu'il a disparu quand même relativement récemment. Il se nourrissait principalement de glands, de faines, de graines, un peu comme notre pigeon ramier. Mais son comportement en groupe immense causait des dommages considérables aux cultures. C'est vrai que quand ils se posaient dans des champs cultivés, en quelques minutes, ils avaient tout mangé. Ceci explique aussi qu'ils aient décliné rapidement parce qu'il a été extrêmement chassé. Donc il a été déclaré éteint au début du XXe siècle. Le dernier exemplaire est mort au zoo de Cincinnati en 1914. Donc on explique son extinction par la chasse excessive, bien sûr, mais aussi par la destruction de son habitat. Et puis le fait qu'il était perçu comme un oiseau nuisible par les agriculteurs, bon, tout ça, ça a contribué à son extinction très très rapide. Donc ça montre bien l'impact humain sur la biodiversité, c'est indéniable. Voilà, cet exemple tragique ne doit pas être oublié. Et donc on a nécessité de préserver les espèces, de préserver leurs habitats, pour éviter que d'autres espèces ne subissent le même sort, ce qui malheureusement arrive régulièrement. Et puis je vous parlais aussi du dodo, gros pigeon de l'île Maurice, une île qui est tout proche de l'île de la Réunion. Donc c'est un autre symbole de l'extinction des espèces animales causée par les activités humaines. Le dodo a vécu sur l'île Maurice jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il a disparu en raison de la chasse intensive par les hommes et de l'introduction que faisaient suivre les navigateurs quand ils découvraient des nouveaux territoires. Donc notamment les porcs et les rats qui ont détruit les nids, mangé les œufs. De plus, cet oiseau donc n'avait pas de prédateurs sur l'île, il n'était pas du tout peureux. Avec les millénaires, il avait perdu son aptitude à voler et il était devenu très lourd. Il pouvait mesurer 1 mètre de long et peser jusqu'à 10 kilos. Du coup, c'était une proie extrêmement facile pour tous les navigateurs et une source de viande très très abordable. Il n'y avait pratiquement qu'à se pencher pour le capturer, quoi. Donc, c'est ce qui explique sa disparition rapide. Alors, je vais vous présenter les trois pigeons et les deux tourterelles que nous avons chez nous. Donc, le pigeon bisé, c'est le pigeon qu'on rencontre un peu partout dans les villages et tout ça, enfin, même si c'est son descendant. C'est un pigeon, la longueur 34 cm, une envergure 65 cm, et il pèse de 200 à 300 grammes. Donc, le pigeon bisé, c'est l'ancêtre du pigeon domestique, particulièrement bien connu et abondant dans les villes et dans les villages, même si ce dernier, en raison de croisements continus et d'une dérive génétique, a perdu beaucoup des caractéristiques morphologiques et de plumage qui caractérisaient son prédécesseur, c'est-à-dire le vrai pigeon bisé. Aujourd'hui, on a des pigeons d'un peu toutes les couleurs. Bon, ils descendent du bisé, mais ce n'est pas le bisé sauvage. Parce que le bisé sauvage possède une silhouette assez remarquable, un corps trapu, des ailes étroites et pointues, plus pointues que les autres pigeons, tête ronde et petite, bec mince et court. Le plumage est gris clair, plus pâle sur le dos, avec des tons verts et violacés sur l'avant et les côtés du cou, et deux barres noires sur les ailes et un croupion blanc qui se remarque surtout en vol. Et ça, c'est un élément caractéristique fondamental pour le reconnaître, le bisé. Il a le croupion blanc. Et dans nos pigeons de village, on en a certains qui ont encore la morphe, c'est-à-dire la forme du pigeon bisé, avec donc ce corps bleu-gris, cette bande noire sur l'aile et ce croupion blanc très très net en vol. Toujours en vol et vu de dessus, on aperçoit parfaitement les ailes blanches, et vu de dessous par contre, et y compris les axillaires, c'est-à-dire les plumes qui sont à l'attache de l'aile sous l'aile, donc celles sont relativement claires. La queue apparaît sombre avec une barre noire à l'extrémité des plumes de la queue, à l'extrémité des rectrices. Le bec est gris, avec un caroncule blanc, blanchâtre, à la base contre le front. L'œil à l'iris jaune est cerclé de rose. Les pattes et les pieds sont roses. Donc c'est un oiseau nicheur, sédentaire, très commun. Le pigeon bisé est originaire d'Europe occidentale et méridionale et d'Afrique du Nord et de la majeure partie de l'Asie. Les populations les plus nombreuses sont sur les littoraux en raison de l'abondance de sites propices à leur nidification, c'est-à-dire les falaises. C'est vrai, quand on a des zones de falaises, surtout des falaises un petit peu, j'allais dire, volcaniques, qui présentent beaucoup de trous, comme c'est le cas à Madère par exemple. Il y a énormément de pigeons, parce qu'on dirait que ce sont des étagères à pigeons, les falaises dans ces zones-là. Donc il est domestiqué depuis l'Antiquité, il est l'ancêtre de tous les pigeons domestiques et des pigeons de ville qui ont été introduits presque partout dans le monde. Donc ces pigeons vivent désormais au voisinage de l'homme, à l'état semi-sauvage, et dans tout type d'édifices. Hein. Donc, quand ils n'ont pas de falaise, bien sûr, ils nichent sur les habitations, sous les bordures de toit, sous les ponts, les viaducs, les clochers. Voilà. Alors que les véritables pigeons bisés sauvages sont devenus très rares en France. On en trouve en Corse et en Bretagne. Et puis, il peut y avoir quelques mentions par-ci, par-là, mais c'est souvent douteux, quoi. Parce que là, le plus souvent, ils sont plus ou moins domestiques, et certains étant même retournés à l'état sauvage, mais ça se voit parce que dans les vols, il y a des pigeons de plusieurs couleurs. Donc ça, ce ne sont pas des bisés purs. Au niveau de l'historique sur l'Aveyron et les départements limitrophes, donc en 1934, un ornithologue signale une colonie revenue à l'état sauvage dans les gorges du Tarn, vers Saint-Denis. Dans les atlas des oiseaux nicheurs des années 70, la présence est cartographiée sur quelques rares mailles en Aveyron, sur quelques petits carrés. Voilà, mais c'est toujours sujet à controverse, quoi. Est-ce que ce sont véritablement des bisés d'origine souche qui étaient là? Bon, ils y ressemblaient fort en tout cas. Donc il y aurait quelques colonies rupestres, peut-être encore dans les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie. Mais nous n'avons pas assez de précisions à apporter sur ces colonies rupestres qui n'ont fait l'objet d'aucun suivi depuis. Actuellement, le pigeon bisé, bisé domestique, est très commun en toute saison dans la plupart des villes et des villages aveyronnais et tarnais, etc. Il se fait plus rare au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Bon, il est grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Les groupes n'excèdent généralement pas 300 individus, mais un maximum de 2000 oiseaux est estimé en 1996 sur Villefranche-de-Rouergue. C'est vrai qu'il y a des villes comme Albi, Castres, etc., Gaillac, qui renferment énormément de pigeons, de clochers qu'on appelle maintenant. L'espèce se reproduit presque tout au long de l'année. Voilà, ils construisent des nids dès le mois de février. Et on peut voir des jeunes, même au nid, même à l'automne. C'est vrai que le pigeon bisé domestique est une plaie dans de nombreux villes et villages. Bon, il est plutôt en augmentation modérée maintenant, mais c'est vrai qu'il a colonisé tellement de secteurs qu'on le trouve partout. Et il peut être préjudiciable aux bâtiments par les fientes acides qu'il produit et donc causer pas mal de dégâts et de salissures, boucher des chenaux, etc. Le pigeon colombin, donc autre pigeon que l'on a chez nous, mais qui est beaucoup plus rare, hein, qui est de la taille du bisé à peu près, mais qui est beaucoup plus discret, moins voyant. Donc les sexes sont identiques chez lui aussi. Voilà, toujours pareil, une petite différence de taille entre le mâle et un peu plus fort que la femelle. On le reconnaît à l'uniformité de son plumage. En effet, les parties supérieures gris-bleutées ne sont marquées que par une petite barre à l'air noire, donc une petite barre sur l'aile, sur les grandes couvertures, et un peu de noir sur les rémiges tertiaires. Donc les rémiges, c'est les plumes des ailes, les tertiaires, celles qui sont les plus proches du corps. Ce qui ne se voit pas ou peu en vol. En vol, on note surtout l'absence de blanc qui caractérise le bisé. Mais le ramier a aussi un peu de blanc. Donc quand on voit un pigeon qui n'a pas du tout de blanc, on peut être en présence d'un pigeon colombé. La poitrine et l'avant du cou sont d'un gris rose vineux qui forme un plastron. En vol, en vue de dessous, on a le même contraste qu'en vue supérieure, mais atténué. La tête est grise, l'iris est brun sombre et l'œil est entouré d'un cercle gris peu visible. Le bec, rose à pointe jaune, a une cire blanche à la base. Les côtés du cou montrent une large plage à reflets verts irisés. Et suivant la lumière, on voit ces irisations. Les pattes sont roses soutenues. Et comme dans beaucoup d'espèces, le juvénile, le jeune, quand il vient de quitter le nid, il est plus terne, il est plus uniforme. Il n'a pas les reflets colorés irisés. Il n'a pas de plastron. Et son bec et ses pattes sont plus pâles. Donc son statut actuel chez nous, c'est un nicheur estivant rare et peu commun comme migrateur. Donc il vit partout en Europe, à l'exception de la Scandinavie. Il vit aussi en Sibérie occidentale, c'est-à-dire la Sibérie la plus proche de nous, en Asie mineure et centrale, et dans une partie du Maroc. Il est sédentaire en Europe méridionale et sur les îles britanniques. Donc chez nous, il est plutôt sédentaire, mais on peut accueillir des migrateurs. Il est migrateur dans les autres régions, il vient passer l'hiver en France, en Espagne, en Italie, en Turquie. En France, et particulièrement chez nous, il est observable toute l'année. Au début du XXe siècle, Delmas, qui était un ornithologue à l'époque, le considérait comme très rarement de passage et précisait « on en tue très peu dans le pays ». Dans les atlas des assaut-nicheurs des années 70, des années 80 et des années 90, la présence de l'espèce est cartographiée sur plusieurs mailles en Aveyron, attestant ainsi de sa reproduction. En revanche, dans les atlas des oiseaux hivernants de 87 et de 91, l'espèce n'est pas signalée dans le département alors que, visiblement, elle y était. La migration prénuptiale, c'est-à-dire avant la reproduction, commence à partir de mi-février, s'intensifie au mois de mars et se termine dans les premiers jours du mois d'avril. Quelques individus ou petits groupes peuvent être alors observés un peu partout dans nos départements. Les pigeons colombins peuvent migrer en groupes monospécifiques, c'est-à-dire être que des colombins entre eux, ou accompagner les pigeons ramiers migrateurs, ce qui est très régulièrement le cas. Quand on voit des groupes de pigeons ramiers, il faut regarder en tête du vol. Et s'il y a des pigeons plus petits, ben ce sont des colombins, des colombins en migration. Donc en période de reproduction, on le rencontre principalement dans les grands causses. Voilà, on a une population qui vit sur les gorges de la Jonte, du Tarn, de la Dourbie. Bon, et aussi une population dans le Nord Aveyron qui semble en augmentation grâce au stock, là, au suivi temporel des oiseaux communs. On a cette confirmation. Donc, dans les grandes falaises, ils nichent bien sûr dans les trous. Et par contre, dans le Nord Aveyron, le Brac, etc., ils nichent dans des trous d'arbres. Et ce qui était le cas aussi autrefois, je peux en témoigner pour l'Ouest Aveyronnais, ils nichaient aussi dans des arbres. Bon, alors, le fait que le pic noir soit en augmentation et creuse des loges qui lui conviennent peut-être expliquer le fait qu'il soit en augmentation relative dans le Nord Aveyron. Voilà, donc c'est une augmentation modérée en France et certainement en Occitanie aussi. Voilà, je vais vous parler du pigeon ramier. Le pigeon ramier est un grand pigeon, c'est le plus grand des pigeons, le plus grand du paléarctique occidental. Outre sa grande taille, on le reconnaît à sa silhouette allongée, avec une longue queue, à grandes marques blanches qui ornent la base de son cou, et de chaque côté du cou, et en vol à la bande blanche qui coupe l'aile en son milieu au niveau du poignet, sur les couvertures. Opposé, quand il est posé, le ramier, on voit quand même ce petit trait blanc sur le bord antérieur de l'aile. Chez l'adulte, la tête et les parties supérieures sont gris bleuté, assez clair. Les parties inférieures sont d'un gris plus clair, avec une nette teinte vineuse ou mauve sur toute la poitrine et la base du cou. Donc ce qui fait, c'est vrai que c'est du plus bel effet, à bonne lumière, il est magnifique. Si on le voit aussi d'assez près, les côtés du cou sont striés. Les deux taches blanches s'inscrivent dans un contexte d'irisation rose, pourpre, vert clair et vert sombre, donc vraiment du plus bel effet. Les rémiges sont gris sombre, avec des liserés blanchâtres. La queue est typique. Les rectrices sont grises dessus, avec une large bande terminale noire, ce qui se voit très bien quand ils s'envolent. Dessous, elles sont barrées à leur milieu d'une large bande blanche bien visible en vol. L'iris est d'un jaune très pâle, presque blanc, entouré d'un cercle orbitaire gris. Le bec est rose pourpre à la base, jaune à son extrémité, et la cire est blanche. Les pattes et les doigts sont roses. Les sexes sont pratiquement semblables. Le mâle a en moyenne les taches blanches du cou plus développées et la poitrine plus vivement colorée que la femelle. Voilà, les cinq sous-espèces décrites se distinguent par de légères différences de couleur, de plumage et des parties un peu plus nues. Donc on peut distinguer des sous-espèces, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. Et le juvénile, comme chez les autres pigeons, il est plus terne que l'adulte. Il est d'un gris nuancé de brun sur les ailes, avec les couvertures légèrement ourlées de beige. La tache blanche du cou est absente, c'est ce qui permet vraiment de le distinguer de l'adulte. L'iris et le bec sont gris, les pattes sont gris rosâtre. Bon, le fait qu'il ait une grande taille lui donne une silhouette qui évite de le confondre avec d'autres pigeons, en tout cas chez nous. Le pigeon ramier est le seul à avoir des bandes blanches nettes sur l'aile. Aujourd'hui, je vous parle de la famille des pigeons, des colombidés. Donc je poursuis sur le pigeon ramier. Le pigeon ramier est présent toute l'année et se reproduit partout, de la plaine jusqu'au plateau de l'Aubrac, à plus de 1300 mètres d'altitude. Les premiers oiseaux en migration prénuptiale, c'est-à-dire avant la reproduction, sont observés à partir du mois de février et les derniers sont notés vers la mi-avril, dont le pic de migration montante il est situé vers la mi-mars. Donc ils commencent à chanter très tôt, hein, déjà fin janvier, on entend les premiers qui chantent et ils peuvent pondre dès la fin février, début mars. Et ils construisent un nid très sommaire de brindilles dans les arbres, des bois, des forêts, de plus en plus dans les parcs et les jardins. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, on peut parfois voir les œufs de par-dessous le nid, tellement il y a peu de branchage. Enfin, en tout cas pour certains nids. La migration postnuptiale débute vers la mi-septembre, culmine dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et se termine mi-novembre. Donc ça, c'est les migrations après la reproduction, bien sûr. Donc à cette occasion, les effectifs sont alors beaucoup plus importants qu'au printemps, parce qu'on voit des grands vols. Qui descendent vers le sud pour aller hiverner beaucoup plus bas. Donc, quelques informations de bagages indiquent que les oiseaux migrants au-dessus de l'Aveyron à l'automne passent l'hiver dans le sud-ouest de la France. Par exemple, un individu bagué en janvier 93 dans les Landes est tué à la chasse en octobre 94 à Sénergues. Et un autre individu bagué en novembre 2003 dans les Landes est tué à la chasse le 27 octobre 2004 à Millau. Voilà. Donc en hiver, l'espèce est commune dans le département, mais elle semble néanmoins beaucoup plus rare au-dessus de 1100 mètres d'altitude. Voilà, on note vraiment de grands vols qui peuvent passer et qui peuvent parfois s'arrêter chez nous. On a eu des cas de plusieurs milliers d'oiseaux qui ont hiverné dans le secteur. Et c'était le cas en l'hiver 2022-2023. On a compté jusqu'à 50 000 oiseaux sur le secteur de Rignacois. Ces gros hivernages en Aveyron n'ont en revanche pas été détectés les deux hivers suivants, là, dans 23-24 et 2024-2025. En revanche, à nouveau, fin 2025, on a eu de gros arrêts, là, notamment en novembre. On a eu des vols où on a estimé qu'il y avait jusqu'à 12 000 individus. Voilà, mais ils ont disparu assez vite par la suite. Bon, ils se sont déplacés, bien sûr. On peut considérer qu'on a une population sédentaire qui effectue des déplacements pendant l'hiver pour gagner des zones peu éloignées pour se nourrir, et une population de pigeons qui sont de grands migrateurs, qui viennent de l'Europe du Nord, hiverner chez nous ou hiverner plus au sud, soit au nord des Pyrénées, soit au sud des Pyrénées. L'hivernage classique, autrefois, c'était en Extrémadour et en Andalousie, puisque là-bas, il y a de grandes chênaies, de chênes verts et de chênes lièges. Et les pigeons ramiers sont de très grands consommateurs de glands. Alors, certains chasseurs appellent les grands migrateurs les palombes et les locaux, les sédentaires, ceux qu'on a toute l'année, les ramiers. Donc, la population est en augmentation modérée en France, mais elle est quand même relativement forte en Occitanie. Ces dernières années, les populations de pigeons ramiers, plus ou moins sédentaires, sont en train vraiment de s'étoffer. Donc je passe à la tourterelle des bois. La tourterelle des bois est une petite tourterelle discrète, au vol très rapide. Souvent c'est au champ qu'on la contacte. Donc c'est un estivant nicheur assez commun. Donc elle nous arrive fin avril, début mai. Traditionnellement on disait qu'elle était là pour le 1er mai. Actuellement elle est répartie sur tout le département, à l'exception des hauteurs de l'Aubrac. Voilà, elle niche donc dans les zones un peu touffues. Et souvent, elle occupe les zones cultivées, mais avec des bordures boisées. Elle aime bien les friches, les bas-fonds humides, bien végétalisés, les milieux ouverts d'écosse. Donc, elle a très, très fortement diminué il y a 20, 25, 30 ans. Et aujourd'hui, sa population est plutôt stable, mais elle est quand même beaucoup plus rare que ce qu'elle était autrefois. La tourterelle turque, c'est la tourterelle que l'on a chez nous dans tous les villages maintenant. Donc c'est une tourterelle qui est un peu plus forte, hein, elle peut peser jusqu'à 225 grammes, hein, presque un petit pigeon. Donc elle vit donc vraiment très proche de l'homme, c'est ce qui lui a permis de se développer. Autrefois, elle était qu'en Turquie et elle a conquis toute l'Europe. Et elle est présente maintenant chez nous et elle a gagné toute l'Espagne. Elle commence même à gagner le nord du Maroc. Donc c'est un nicheur sédentaire très commun. Les premières qu'on a vues chez nous, c'était en 1963, et c'était quand même que des cas un peu exceptionnels. Elle s'est mise à nicher chez nous dans les années 60, fin des années 70, 80. Voilà. Donc, elle est observable vraiment sur tout le département et partout. Son chant se fait entendre toute l'année. Elle niche de janvier à octobre facilement. Voilà, toujours un nid composé de quelques brindilles. Elle peut nicher dans les bâtiments. Elle est vraiment devenue très proche de l'homme. Donc ainsi s'achève cette émission sur les colombidés. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Thank you.